Régis Descotes, vous publiez aux éditions Jean-Claude Lattès un roman intitulé « Obscura ». Obscura, qui on le découvrira à la lecture, et en même temps le nom donné à un personnage, mais en même temps évoque la caméra obscura, qui est la chambre noire en photographie. Mais nous n'allons pas anticiper, parce que le problème avec les romans thrillers, c'est qu'on ne peut pas trop en dire sans gâcher le plaisir de découverte du lecteur. Alors, ma première question porte sur la spécificité du roman qui devient avec vous comme une machine à explorer le temps. En effet, ce que vous racontez se passe dans le monde de la psychiatrie à Paris au XIXe siècle. Pourquoi avoir choisi cette période-là et cet environnement-là de médecine et de psychiatrie ?
Alors, il faut remonter à mes deux précédents romans, Pavillon 38 et Cain et Adèle, qui sont des thrillers psychiatriques. Et j'ai fait des recherches pour ce livre dans le domaine de la psychiatrie qui m'ont tellement passionné que j'ai voulu remonter aux sources de la psychiatrie. Et ça m'a naturellement conduit à la clinique du docteur Blanche. Et ça tombait bien, puisque cette clinique du docteur Blanche, ça correspond à l'impressionnisme. Donc, l'impressionnisme, qui est une période dans l'art qui m'intéresse beaucoup, en particulier Manet. Et donc, tout s'est naturellement assez bien imbriqué. Et c'est pour ça, c'est comme ça que j'étais amené à aborder cette période et cette année 1885 qui correspond à 2 ans après la mort de Manet, parce que donc, je voulais travailler autour de l'œuvre de Manet, mais je voulais travailler une fois Manet mort, puisque je ne voulais pas être tenté de réinterpréter son travail et par la même occasion éventuellement de le trahir. Je voulais laisser toute son intégrité à son travail et à son œuvre, et laisser à certains de mes personnages leur entière responsabilité.
Alors, votre roman part d'un personnage qui est un médecin à Paris, Jean Corbel, qui est le fils d'un marchand de couleurs, ce qui fait le lien entre lui, jeune médecin, et le monde de la peinture. Mm-hmm. On lit votre livre et on apprend énormément de choses sur ce qu'était le quotidien d'un médecin à Paris à l'époque. Est-ce que c'est un type de personnage qui vous a rendu particulièrement sensible par ces côtés-là aussi ? On a l'impression qu'on est parfois dans du Zola, où on découvre la vie d'un médecin à Paris à l'époque.
Zola ou Dickens, oui. Dickens, je fais souvent allusion, enfin à plusieurs reprises allusion aux grandes espérances dans le roman. Les grandes espérances étant un des livres que je place au-dessus de tous en matière de littérature. J'ai été très intéressé par, très concerné par cet écart colossal qu'on pouvait trouver entre les riches et les pauvres. Cette fin du XIXe siècle, époque de toutes les révolutions industrielles, artistiques, scientifiques, était donc une époque au cours de laquelle on croyait énormément dans le progrès, on avait foi en l'avenir. La France était un des pays les plus riches du monde. Paris était une ville qui embellissait, qui s'enrichissait d'année en année. Et à côté de ça, on avait tout un petit peuple qui affluait à Paris de la France entière, voire de l'Europe également, pour participer à la construction et à l'embellissement de cette ville. Et ces gens, très souvent, vivaient dans des conditions déplorables. Et le médecin, c'est celui qui était au chevet de ces gens, et avec des moyens très limités, puisque à l'époque, il y avait des maladies comme la syphilis, d'autres maladies vénériennes, ou la tuberculose et toutes les maladies pulmonaires, qui étaient mortelles. On n'avait pas d'antibiotiques, pas de pénicilline, et pour peu que ces maladies dégénéraient, elles pouvaient très rapidement s'avérer fatales. Et donc les médecins se retrouvaient assez démunis et avec très très peu de moyens pour combattre ces fléaux qui étaient très très répandu. Un mauvais rhume pouvait se terminer par la mort au bout de quelques semaines ou mois.
Alors, vous avez évoqué la syphilis. C'était une maladie qui était une maladie marquante dans une partie de la population, que ce soit chez les prostituées ou chez leurs clients, entre guillemets. Et là, on avait aussi une sorte de confrontation de la misère, celle des prostituées, avec une certaine classe bourgeoise plus aisée.
Absolument. C'est une maladie qui touchait toutes les classes de la société, tous les âges, hommes, femmes, enfants contaminés par leur mère, par leur nourrice parfois, enfants contaminant leur nourrice. C'était terrible, ça touchait. Personne n'était véritablement à l'abri de cette maladie, beaucoup plus encore que pour le sida aujourd'hui, par exemple. Et c'est une maladie très ancienne, puisque les premiers cas remontent à 1493 ou 14, enfin le retour de, ça correspond au retour des hommes de Christophe Colomb d'Amérique. Le mal aurait été rapporté d'Amérique. Mais en France, on parlait du mal de Naples, parce que ce sont les armées du roi Charles VIII qui auraient attrapé ce mal à ce moment-là. Et il était extrêmement virulent. On pouvait en mourir en quelques jours. Ensuite, l'organisme, au fil des siècles, on n'avait toujours pas de remède. On avait le mercure, mais le mercure causait énormément de dégâts dans l'organisme, notamment aux reins ou au foie. Donc c'était presque pire que le mal. Mais l'organisme s'est quand même un peu adapté, comme à chaque fois, et le mal était moins virulent, il était mortel moins rapidement. Mais au XIXe siècle, c'était vraiment la grande maladie. Et énormément de personnages ont été infectés par cette maladie, comme Maupassant, on parle aussi de Flaubert, qui l'évoque dans certaines de ses lettres, avec un certain humour d'ailleurs, un certain détachement. Et puis c'était une maladie qui, sur le plan romanesque, était assez intéressante aussi, parce que très, très spectaculaire. Les dégâts physiques, ce qu'on appelait les syphilides, les affections cutanées, pouvaient être absolument terrifiantes. Il y a un endroit à Paris qui est le musée des moulages dermatologiques, qui se trouve à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, donc, qui est saisissant, qui est frappant d'horreur. Ce sont des moulages qui ont été réalisés donc sur des patients, des malades, à cette époque-là, hein, à partir des années 1860, et qui étaient destinés aux étudiants en médecine pour leur montrer les cas. Tout ça, c'était moulé, peint, c'est d'une vérité saisissante. Et donc j'en fais part un petit peu dans le roman de quelques-unes de ces affections. Et voilà.
Oui, tout ce que vous évoquez ici dans cette interview, en fait, on le retrouve dans le roman, parce que votre personnage central, ce médecin Jean Corbel, est aussi un très grand humaniste. Il est très, très attaché à la frustration que crée chez lui le fait de ne pas pouvoir guérir ceux qu'il soigne, parce qu'il sent que la science médicale, l'art médical n'a pas encore permis d'arriver au résultat qu'il espère. Et en plus, comme il est le fils d'un peintre, d'un marchand de couleurs, il a une façon de décrire, sous votre plume, les différentes affections qui ne sont représentées qu'en noir et blanc dans les planches et dans les photographies de l'époque.
Tout à fait. Du fait que, justement, la photographie était uniquement noir et blanc à l'époque, les médecins qui décrivaient toutes ces affections cutanées étaient obligés d'avoir recours à un langage très, très imagé. Et parfois, ils avaient recours aussi au vocabulaire de la peinture. Et c'est ce que fait mon personnage de médecin. Et cette façon de faire appel à la peinture pour décrire ou évoquer ces syphilites, ces affections cutanées, qui peuvent avoir un aspect assez repoussant, était aussi une façon pour lui de repousser l'horreur, justement, de la tenir un peu à distance. Et c'est vrai qu'il était, mon personnage de Jean Corbel, j'ai voulu le décrire comme un humaniste, vraiment un médecin des pauvres qui vit sa médecine comme un véritable sacerdoce et qui est très très concerné par le sort de tous ces malheureux.
Alors, dans le thriller, parce que votre roman est un thriller psychiatrique, ce jeune médecin, Jean Corbel, est confronté à un cas de pathologie psychiatrique. Un des personnages transforme des tableaux de Manet et en fait des reconstitutions non pas vivantes, parce qu'elles sont faites avec des mannequins et des cadavres. C'est la couverture de votre livre, c'est le déjeuner sur l'herbe. C'est un des tableaux qui est représenté par ce criminel qui utilise des cadavres pour représenter des tableaux.
Cet artiste fou est fasciné par Manet, parce que Manet était un peintre qui a eu qui a connu un renom extraordinaire de son vivant, et dont certaines des toiles, comme le Déjeuner sur l'herbe ou l'Olympia, ont provoqué des scandales retentissants à l'époque. Et donc,
c'était le fameux salon des refusés.
Oui, qui est le salon des refusés qui a été donc créé par Napoléon III, en grande partie pour le Déjeuner sur l'herbe. C'était le premier salon des refusés, en effet, en 1863. Et ce personnage, fasciné par Manet, donc ça c'est mon idée de départ, décide de reconstituer ses tableaux avec des cadavres. Et de là, toute l'intrigue.
J'ai vu aussi une sorte de métaphore entre la photographie qui, à l'époque, semblait pouvoir menacer la peinture. Hein. Les peintres de l'époque se sont dit, si la photographie vient, nous allons perdre notre fonction, une de nos fonctions.
La photographie, dans mon esprit, était un art purement mécanique et qui nécessitait, à la limite, et c'est ce à quoi s'emploie le personnage, une mise en scène. Et c'est là que résidait la part artistique du travail. Tandis que la peinture, c'est un art du début à la fin. On empoigne un pinceau et on doit réaliser sa toile. Et si on n'a pas ce talent-là, on est complètement démuni. C'est un peu le problème de ce personnage-là, le personnage noir du roman. Et donc il a recours à la photographie comme un moyen. Mais comme ses œuvres sont des œuvres de mort, sa photographie n'est là que pour enregistrer un travail de mort. Donc en effet, la métaphore était tentante.
Il y a l'art de la photographie, l'art de la peinture, et le troisième art, c'est celui de la médecine. Et j'aimerais que vous nous précisiez un peu, dans la médecine psychiatrique de l'époque, quels étaient, où on en était, où il y a le docteur Blanche d'un côté, puis le professeur Charcot qui commence à avoir une approche, je dirais à nouveau, plus humaniste aussi, plus à l'écoute du patient que de l'enfermement du patient.
Le docteur Blanche était un aliéniste très renommé, qui avait une clientèle qui se trouvait dans la grande bourgeoisie et les milieux artistes. Mais c'était un aliéniste classique, tandis que Charcot était un découvreur, un explorateur de l'inconscient, avec ses travaux sur l'hystérie et sur l'hypnose. D'ailleurs, en 1885, Freud a assisté pendant plusieurs mois à l'enseignement de Charcot. Donc, d'une certaine façon, on peut considérer que Charcot n'est pas pour rien, n'est pas tout à fait étranger à la découverte de la psychanalyse. Donc, les découvertes, les explorations de l'inconscient. Et de ce point de vue, c'était l'ouverture vers des horizons très très nouveau à l'époque.
Ce roman se lit d'une traite, on est saisi par le côté thriller, par l'intrigue policière, par l'enquête qui va se dérouler, et dont on ne parlera pas. Mais il y a aussi un style qui s'apparente au roman naturaliste.
Ma documentation, c'est fait en deux phases. Il y a eu la phase de documentation purement utilitaire, donc sur la médecine, la prostitution, la peinture. Et puis, je me suis employé à relire pas mal de romans contemporains de cette époque, de Zola, Balzac, Edgar Poe, Huysmans, Jean Lorrain, Baudelaire, pour saisir l'esprit de l'époque et certaines expressions ou mots de vocabulaire qui auraient disparu. Alors, je n'ai pas voulu en truffer le roman parce que on est en 2009 et il n'était pas question d'écrire, de singer la manière de ces auteurs-là, mais par quelques mots que j'espère bien sentis, j'ai voulu apporter quelques petites touches 19e.
Une dernière question, j'aimerais savoir comment vous construisez, vous organisez votre travail. Vous avez parlé de la documentation que vous aviez réunie pour les deux premiers romans, oui. Mais ici, vous avez organisé comment ce travail. J'ai lu quelque part que vous avez été créateur de jeux vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui influence la construction d'un livre? Comment est-ce que les deux travaux s'interpénètrent éventuellement?
Le jeu vidéo a ceci de particulier que l'objectif est de laisser en permanence des choix aux joueurs. Et donc, ça suppose une intrigue avec des ramifications multiples. Pas infinies, mais très très nombreuses. Alors que dans un roman, on ne laisse pas le choix au lecteur. Et on doit construire l'intrigue d'un bout à l'autre. Et le guider d'un bout à l'autre. Donc vous parliez, oui, il y a en effet cette documentation qui était très, très importante pour ce livre, qui m'a pris 6 mois. Et ensuite j'ai fait un plan très détaillé, qui représentait 1/5 du livre à peu près.
Et dans le plan alors, on trouve quoi? On trouve les grandes étapes de la progression de l'histoire?
Ah oui, même un peu plus que les grandes étapes même si je m'en suis éloigné. Parce qu'un plan, c'est ça, même avec les meilleures intentions du monde, avec la plus grande attention possible, ça reste quelque chose de mécanique. C'est une construction intellectuelle. Or, à partir du moment où on commence à écrire, les personnages prennent vie. Et ils prennent le pas sur le plan. Parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on avait imaginé au niveau du plan ne correspond plus à la psychologie propre à chacun des personnages. Et donc, la fin du roman correspond à celle que j'avais imaginée dans le plan, mais le plan comptait 35 chapitres, si mes souvenirs sont bons, et le livre en compte 50. Donc il y a quand même un certain écart.
Régis Descott, je vous remercie pour cette interview et surtout pour ce livre dont je rappelle le titre, Obscura, un roman paru chez Jean-Claude Lattès, qui est un thriller psychiatrique, mais qui est aussi un moyen extraordinaire d'aller explorer l'histoire avec un grand H à travers des histoires qui finalement humanisent aussi la manière dont a été vécu le Paris de 1885, ce milieu de la médecine, ce milieu de la psychiatrie que vous connaissez si bien, et en plus que vous nous faites découvrir de manière tellement, tellement vivante qu'on est triste quand on arrive aux dernières pages du livre, ce qui est rare et ce qui est le signe d'un très très grand livre à lire et toutes affaires cessantes.
Ah, je vous remercie. Voilà. Quel éloge.
Merci beaucoup Régis Descott.
Merci à vous.
Voilà.